Gustave le Rouge, La vallée du désespoir, roman en 14 chapitres. Chapitre 1er, un drame au désert. Il y avait un mois que Martial Norbert avait quitté Mexico en compagnie d'un vieux métis indien, Chanito, qu'on lui avait recommandé pour sa probité et pour la parfaite connaissance qu'il avait des parties encore inexplorées de la cordillère des Andes. Martial, d'ailleurs, n'avait eu qu'à se féliciter de son choix, et il appréciait de plus en plus les qualités d'un pareil guide, depuis qu'ils avaient pénétré dans les régions désertiques de la Sonora, la terre sans eau, sans arbres et sans maîtres, qu'on a énergiquement appelé « No Man's Land », la terre hostile à l'homme. Après une dure matinée de marche à travers une plaine de sable, où les deux mules pesamment chargées enfonçaient parfois jusqu'au poitrail, ils avaient fini par atteindre un ravin abrité où, sur les bords d'un petit ruisseau, poussaient quelques saules, quelques euphorbes et de maigres palmiers. Martial, accablé de fatigue, anéanti par une chaleur suffocante, était tombé dans un profond sommeil. Chanito, lui, veillait sur le repos de son maître, le Señor Padrone, comme il l'appelait, en fumant d'un air profondément pensif des cigarettes de gros tabac noir roulées dans une feuille de maïs en guise de papier. Sa face osseuse et couleur de brique au méplat fortement accentué, ses lèvres bleuâtres, ses pommettes saillantes, son nez à la fois aplati et busqué, faisaient invinciblement songer à ces impassibles colosses gravés dans le roc par les Aztèques et les Chichimèques et qu'on leur retrouve dans les ruines de leurs temples. Chanito était vêtu d'un vieux veston de cuir, d'un pantalon de toile bleue en loques et coiffé d'un feutre rongé par l'usure mais orné d'un galon doré et de petites plaques d'argent suivant l'ancienne mode mexicaine. Un léger bruit arracha tout à coup le métis à sa rêverie. Il tressaillit, se leva et jeta un rapide coup d'œil autour de lui, des pics bleus de la Sierra Madre qui bornaient l'horizon vers la droite, jusqu'aux vagues lointaines du Pacifique, derrière la mouvante bordure des dunes. Le bruit s'accentua, répercuté par les échos de la montagne. Le bruit, familier à l'oreille du vieux coureur des bois, d'un pic d'acier sonnant sur le dur granit. Et dans le mortel silence du désert endormi sous un soleil torride, le son paraissait tout proche. « Un prospecteur !» murmura Chanito en se rasseyant, tranquillisé, mais sans perdre de vue la vieille carabine placée à côté de lui. Troublé dans sa sieste, Martial s'était réveillé et se frottait les yeux. Il allait parler et demander l'explication de ce bruit insolite, mais le métis mit un doigt sur ses lèvres et lui fit comprendre qu'il ne fallait pas déceler leur présence. « C'est un homme qui cherche de l'or, » dit-il à voix basse. Ben, « Il pourrait peut-être nous renseigner, » répliqua le jeune homme. Chanito secoua la tête. « Je ne crois pas, » murmura-t-il. « Les prospecteurs n'aiment pas qu'on se mêle de leurs affaires, surtout quand ils viennent de découvrir un gisement, ce qui est le cas. » Martial regarda avec précaution, en se cachant derrière les roseaux qui bordaient le ruisseau, dans la direction que lui indiquait son guide, et aperçut, à 40 mètres de là, un grand gaillard à longue barbe brune d'assez mauvaise mine, qui, armé d'un pic, tapait de tout son cœur sur la roche quartzeuse. À cet endroit, la ravine s'élargissait brusquement, le ruisseau devenu plus important coulait entre deux hautes falaises. C'est sur une sorte de plateforme située à mi-côte de cette falaise que le prospecteur s'était installé. À côté de lui étaient éparpillés la pelle, le lourd marteau, les fleurets et les cartouches de dynamite, outillage habituel du moderne chercheur d'or, avec la batée classique, le plat de fer battu qui sert à laver les sables aurifères. 10 mètres plus bas, un âne pelé broutait mélancoliquement près du ruisseau. À ce moment, une face basanée se montra entre deux fissures du roc à quelques pas du prospecteur et regarda celui-ci avec une atroce expression de ruse et de basse cruauté. On eût dit un tigre prêt à bondir. « Oh, Sainte Vierge !» murmura Chaniteau en se signant dévotement. « Le pauvre chercheur d'or est perdu !»« Comment cela ?» demanda Martial, profondément ému. « Mais l'homme qui le guette est un bandit, le fameux Bernardino, connu de tous les habitants de la frontière, et même en Arizona, où il a commis, oh, je ne sais combien de meurtres. Son procédé n'a pas changé. » Il suit pendant des jours et des jours un prospecteur et, quand celui-ci a découvert un filon, il l'assassine et s'empare du produit de son travail. Il faudrait empêcher cela, s'écria Martial avec indignation. Trop tard, Seigneur Padrone, vous voyez. Le bandit, avec une souplesse et une lenteur toute féline, était sorti de sa cachette, tenant à la main une navaja à large lame. Il n'était plus qu'à 2 pas du prospecteur, tout entier à son rude labeur. La gorge serrée par l'angoisse, Martial assistait impuissant à ce drame atroce. Il eût voulu crier, mais sa voix s'étrangla dans son gosier paralysé par l'émotion. D'ailleurs, comme l'avait dit Chaniteau, il était trop tard. Le prospecteur venait de déposer son pic pour étancher la sueur qui ruisselait de son visage. C'est alors seulement qu'il aperçut Bernardillo qui se ruait sur lui comme une bête fauve. La lame de la navaja décrivit une courbe étincelante comme un éclair, mais à cet instant précis, le claquement sec d'une détonation fit retentir les échos de la Sierra, et le bandit, frappé en plein cœur, dégringola tout sanglant du haut du rocher. En se retournant, Martial aperçut Chaniteau qui, sa carabine encore fumante dans les mains, souriait d'un grave sourire. Je m'étais trompé. Il était tout de même pas trop tard, Señor Padrone, fit-il sentencieusement. Voilà toujours un coquin de moins. Tu as bien fait, bégaya Martial, encore tout bouleversé. Mais n'aurons-nous pas d'ennuis à cause de ce meurtre? Chaniteau eut un superbe haussement d'épaules. Bon, dit-il, avec insouciance, au contraire. J'aurais plutôt droit à une prime, car ce gredin Bernardillo a été condamné à mort 2 ou 3 fois. Maintenant, allons voir le prospecteur. Celui-là peut dire qu'il nous doit une fière chandelle. L'homme était demeuré à la même place, en proie à la stupeur et au saisissement, à la suite du drame rapide dont il avait failli être victime et auquel il n'avait rien compris. À la vue de ceux qu'il avait sauvés, il n'était pas encore tout à fait sûr que ce fût eux. Il porta la main au Browning qu'il avait à la ceinture avec un geste de méfiance. C'est vous qui avez tiré? Demanda-t-il. Oui, répondit Martial. Il en resta là de sa phrase, tant il était surpris. Le prospecteur et lui se dévisageaient avec étonnement, mais sans nulle malveillance. Voyons, dit enfin Martial, c'est bien toi, Léon de Frontenac? Ah ben oui, mon vieux, mais du diable si je t'aurais reconnu. Et toi, avec ta longue barbe. Les deux amis, qui pendant la guerre avaient servi dans la même escadrille, s'embrassèrent avec effusion à la grande stupeur de Chanito. Fontenac, le rude prospecteur, était très ému. « Tu ne peux pas te figurer, murmura-t-il, avec quel plaisir on retrouve un vieux camarade comme toi, quand il y a 6 mois qu'on vit en plein désert. Oh, j'en ai des choses à te raconter. Que diable fais-tu ici, je te croyais riche ?»« Je l'étais, répondit Fontenac d'un air détaché. Seulement, ben, j'ai le défaut d'être très dépensier. » « Ah, je comprends, tu as mangé ton patrimoine en faisant la fête. »« C'est cela même, oui, oh, j'ai fait 1000 folies, je te raconterai cela. » Cette conversation en langue française était demeurée lettre morte pour l'honnête Chanito, qui ne parlait qu'un mauvais espagnol émaillé d'anglais et de patois indien. Voyant que son señor padrone et le nouvel ami de celui-ci ne daignait pas le mettre entière dans leur confidence, il s'éclipsa discrètement, et sans qu'on eût besoin de lui en donner l'ordre, s'occupa des besognes qui lui parurent les plus urgentes. Son premier soin fut de traîner aussi loin qu'il put le cadavre du bandit et de l'enterrer sommairement dans une excavation naturelle qu'il combla de menus fragments de schiste pour en défendre l'accès aux vautours. Il alla ensuite chercher les 2 mules, demeurer en haut du ravin avec le bagage, et les installa près de l'âne de Fontenac. Il partit ensuite, la carabine en bandoulière, et disparut bientôt le long des berges du ruisseau. Martial, qui avait suivi du regard son taciturne serviteur, dit à son ami: « Oh, je suis sûr que Chalito va nous revenir avec quelques gibiers succulents. Il a dû se douter que je t'invitais à dîner, et il a jugé sans doute que le corned beef n'était pas un mets assez distingué pour toi. » Le fracas d'une détonation coupa court aux explications de Martial, et une volée d'oiseaux aquatiques, parmi lesquels se trouvaient des aigrettes et des spatules au plumage d'un rose délicat, s'éleva des roseaux qui bordaient le ruisseau. Ben, « Je ne croyais pas si bien dire, reprit Martial. Chanito vient de gagner notre déjeuner, car c'est un tireur extraordinaire. Ben, « J'en sais quelque chose, répliqua Fontenac, en songeant à la balle infaillible qui avait abattu son assassin. Le métis reparut bientôt. Il avait tué un de ces canards sauvages si abondants au Mexique qu'on en trouve au bord de presque tous les cours d'eau. En outre, il avait ramassé, chemin faisant, des racines de dahlia sauvages qu'il comptait servir en guise de légumes et les fruits rouges et charnus de l'arbre qu'on appelle le cerisier des Antilles. Il avait encore une poignée de goyave à la chair fondante, sucrée et parfumée, dont le goût rappelle à la fois celui de la fraise et celui des meilleures oranges. « Décidément, s'écria Martial en se frottant les mains, je crois que nous allons faire un vrai festin de Balthazar. Il faudrait pas t'y habituer, répliqua Fontenac d'un ton sérieux. Quand tu auras voyagé un jour ou deux dans la vraie Sierra, tu ne trouveras plus de pareilles aubaines. » « Mais raison de plus pour en profiter !» s'écria gaiement Martial. « Tiens, pendant que Chanito s'occupe de la cuisine, tu vas m'aider à dresser le couvert sur ce bloc de granit qui ressemble un peu à une table, et d'autres blocs plus petits nous serviront de siège. Ce sera parfait !» Chapitre 2. Vers la vallée maudite. Ce fut avec une certaine satisfaction de vanité que Martial étala sur la table de granit toutes les richesses de son garde-manger. Le canard rôti à la ficelle, frotté extérieurement de piment et intérieurement parfumé par les noix du muscadier, fut dévoré jusqu'aux os, puis Chanito ouvrit une boîte de corned beef qu'accompagnaient les tubercules de dahlia cuits sous la cendre. En guise de pain, on mangea du biscuit trempé dans l'eau limpide de la source. Le dessert eut un véritable succès, ce fut pour ainsi dire le clou de ce banquet improvisé en plein désert. Les cerises des Antilles, les goyaves et les figues de cactus, que Chanito avait adroitement débarrassées de leur piquant, furent déclarées incomparables. « Bon vieux !» s'écria Fontenac, « j'ai déjeuné comme un roi. Il y a bien longtemps que je n'avais pas fait un pareil repas. Sais-tu qu'il y a des semaines que je n'ai mangé que de ces haricots qui s'appellent ici des frijoles ? Ils sont d'ailleurs très bons, mais quelques lanières de cette horrible viande séchée au soleil, le tasajo, qui est à la fois fin, puant et coriace. Et que tu payes sans doute au poids de l'or. Tu crois pas si bien dire ? Depuis longtemps, je ne vis plus que de la poudre d'or que je récolte à la sueur de mon front, dans le lit des torrents et au flanc des montagnes. Quand j'en ai un peu, je vais jusqu'à une fatenda, à 20 km d'ici, renouveler mes provisions. J'ai déjà généralement du tassaro ou du lard rance et de la farine de maïs. Et qu'est-ce que tu bois ? Parbleu, de la flotte ! Fit gaiement Fontenac, et encore quand j'en trouve, car j'ai terriblement souffert de la soif dans ce maudit pays. Monsieur de Fontenac, dit solennellement Martial, j'ai l'honneur de vous inviter à prendre le café, un café arrosé, comme on disait à la cantine, à moins que vous ne préfériez un grog. Mais tu es blague, fit le prospecteur émerveillé. Je n'ai jamais été plus sérieux. Je possède quelques bouteilles d'authentique rhum de canne de la Cagna. Rien ne nous empêche de confectionner un excellent grog. Décidément, j'ai trop de chance, murmura Fontenac, devenu songeur. Je retrouve un vieux copain qui me sauve la vie. Je découvre un joli filon et je dîne en ville. Et il ajouta après un silence, « Je parie que tu as du tabac ?»« Bien sûr. »« Alors, c'est complet. Sais-tu qu'il y a 8 jours que je l'ai fumé ?»« Vois-tu, je suis trop heureux aujourd'hui, j'ai peur qu'il me tombe d'une tuile. »« Mais toi, mon vieux, tu es l'enfant gâté de la fortune. »« Tu arrives ici avec un domestique et des mules, chargé de boustifaille. »« Seulement, » ajouta-t-il en devenant subitement grave. « Tu n'es en ce moment que sur la limite du vrai désert, du no man's land. » Martial se taisait. « J'ai beaucoup d'amitié pour toi, » reprit Fontenac. « Sois franc, tu es comme moi, sans le sou. Tu viens chercher fortune dans un pays où les 3/4 de ceux qui s'y risquent laissent leur peau. Moi, j'ai réussi, par le plus étonnant des hasards, le gisement que j'ai repéré vaut 200 000 $ au bas mot, probablement plus. Veux-tu que nous partagions ? Tu en seras quitte pour me donner un coup de main avec ton Indien ? Oh, merci, répondit Martial tristement. Non, je ne puis pas accepter. D'abord, je suis riche. Hein ? Grommela Fontenac estomaqué. Mais oui, j'ai des banquenotes en portefeuille. J'allais précisément t'en offrir. Alors vrai, mais je ne comprends plus. Tu es chargé d'une mission scientifique ? Oh, nullement, non, tu n'ignores pas que je suis sculpteur de mon métier. Je le sais, au temps de ma splendeur. J'allais admirer tes navets au vernissage. Ben, alors je me demande un peu ce que tu viens afficher ici. Ben, mon bonheur est en jeu, et la vie de personnes pour lesquelles je sacrifierais volontiers la mienne. Tu es amoureux ? Follement. Je suis fiancé à Miss Rosie, la fille de l'ingénieur Wilcox, un géologue et un chimiste de premier ordre. Et pour le moment, je suis à la recherche de mon futur beau-père, dont on est sans nouvelles depuis 2 ans. Voilà qui n'est pas banal, s'écria Frontenac avec étonnement. Et c'est dans ce désert que tu comptes retrouver l'ingénieur? Laisse-moi t'expliquer. Monsieur Wilcox, un spécialiste des terrains miniers, a rendu d'immenses services au gouvernement mexicain dont il est le créancier pour une somme considérable. Comme on ne pouvait le payer, on lui a offert, au lieu d'argent, une vaste concession dans une région montagneuse située à 10 ou 12 miles au nord de l'endroit où nous nous trouvons en ce moment. « Ah, je commence à comprendre !» murmura Frontenac, qui demeurait songeur. « Il y a 3 ans que M. Wilcox est parti, et depuis 2 ans, sa fille n'a reçu de lui aucune nouvelle. Rosie est venue habiter à Mexico, elle a fait toutes sortes de démarches, toutes sortes d'enquêtes. Elle n'a pu obtenir aucune précision, aucun renseignement sérieux. Tous ceux auxquels elle s'est adressée sont persuadés que l'ingénieur a péri dans le désert, ainsi que les 2 hommes de confiance qui l'accompagnaient, MacTavish et Bentley. Alors, c'est ta fiancée qui ne veut pas croire à la mort de son père qui t'a envoyé à sa recherche. Bon, je crois bien que tu n'en sois pour tes peines. Martial avait tiré de sa poche une carte d'état-major sur laquelle tout un vaste emplacement était souligné au crayon rouge. Voilà, dit-il, la concession de mon futur beau-père. Mais c'est superbe, s'éclara Frontenac. 2 ou 3 lieues carrées de montagne dans un coin qui passe pour enfermer des placers. Oh, il est vrai qu'ici le terrain ne coûte pas cher. Frontenac s'était brusquement interrompu. Sa physionomie exprimait à la fois l'étonnement et l'inquiétude. Et qu'y a-t-il donc? Demanda Martial. Est-ce que tu sais que la concession accordée à ton futur beau-père englobe un district maudit que l'on appelle la vallée du désespoir? Les Indiens, les Gambusinos, les bandits eux-mêmes s'en écartent avec épouvante. Oui, je suis au courant, mais cette appellation romantique, la vallée du désespoir, n'a pas produit sur moi une grande impression. D'ailleurs, c'est là seulement que j'ai quelque chance de retrouver M. Wilcox, à besoin qu'il ne soit mort, comme j'ai beaucoup de raisons de le croire. Les 2 amis étaient redevenus silencieux, comme si chacun d'eux n'eût osé faire part à l'autre de ses réflexions. « Sais-tu, dit enfin Frontenac, que tu t'es engagé peut-être un peu à la légère dans une singulière aventure. Pour quelque raison que ce soit, la vallée du désespoir est redoutée de tout le monde. Je connais des chercheurs d'or qui font un détour de 1000 milles pour ne pas passer à proximité de cette terre de désolation. Je suppose que tu ne crois pas à toutes ces histoires-là, répondit Martial en haussant les épaules. Je suis persuadé, moi, que la vallée du désespoir est une vallée comme les autres, et je suis bien décidé à y pénétrer. Frontenac était devenu grave. « Je suis pas de ton opinion, fit-il. Cette terreur unanime qu'inspire ce coin de terre à des gens qui pourtant ne passent pas pour avoir froid aux yeux me donne à penser. Si tu errais dans le désert depuis aussi longtemps que moi, tu me comprendrais. As-tu parlé de cela, ton Indien ? » Martial s'esclaffa. « Oh, Chalito ! » s'écria-t-il. « Mais il a une frousse bleue dès qu'on parle devant lui de la fameuse vallée, à tel point qu'il n'a consenti à m'accompagner qu'à condition qui se retirerait dès que nous serions à une certaine distance de la terre maudite. Et pourtant, Chalito est brave. Il n'a peur ni des bandits, ni des jaguars, ni des serpents à sonnette. Tu vois bien, reprit Frontenac, il faut pourtant qu'il y ait quelque chose. Tiens, appelle donc Chanito, je serais pas fâché de savoir ce qu'il en pense. » Martial fit un signe à l'Indien, qui, à quelques pas de là, fumait béatement sa cigarette. « Il paraît que t'es un poltron !» lui dit rudement Frontenac. Le métis se contenta de secouer négativement la tête. « Alors, pourquoi veux-tu pas accompagner mon ami jusqu'au bout de son voyage ?» Le métis s'était redressé. Il regarda bien en face son interlocuteur. Son visage, couleur de vieux cuir, s'était coloré d'une faible rougeur. « Je ne suis pas un poltron, » dit-il lentement, « mais je n'approcherai pas de la vallée du désespoir. Pourquoi ? Je n'ai pas peur des hommes ni des bêtes féroces, mais je ne veux pas avoir affaire aux mauvais esprits qui ont élu la vallée pour demeure. C'est donc si dangereux que cela ? » Chanito se drapa dans ses guenilles avec un geste emphatique. « Regarde les ossements blanchis qui couvrent les chemins, » dit-il avec une solennité qui ne manquait pas de grandeur. Martial se sentit ému malgré lui. De funestes pressentiments l'envahissaient. Il devinait des périls inconnus. « Eh bien, moi, » s'écria Frontenac en riant, « je ne crains pas les mauvais esprits. Quand j'ai une bonne carabine et des cartouches. Si tu veux, mon vieux Martial, je t'accompagnerai. À nous deux, nous tordrons le cou aux démons de la vallée. » « Ne parlez pas ainsi, » murmura Chanito avec épouvante. « Si vous leur faites des menaces, ils se vengeront. » Et comme pour bien montrer qu'il n'était pas complice de ceux qui provoquaient les mauvais génies, il se retira à quelques pas de là et se remit à fumer en silence. « Ce Chanito n'a pas l'air d'un mauvais diable, » reprit Frontenac. « Mais quel pleutre !»« Bon, mon cher ami, je te réitère ma proposition, j'irai avec toi. »« Non, mais je ne veux pas que tu m'accompagnes, » répondit Martial d'un ton sérieux. « Mais pourquoi donc, s'il te plaît ?» « Non, je ne veux personne avec moi. Je me suis juré de mener à bien cette aventure sans être aidé de qui que ce soit. D'ailleurs, tu as de la chance de découvrir un gisement d'or. Il faut l'exploiter jusqu'à la dernière parcelle. Tu ne retrouveras peut-être jamais une autre occasion de refaire ta fortune. Bon, je reviendrai quand nous aurons élucidé ensemble le mystère de la vallée du désespoir. » Non, je ne le veux à aucun prix. Tu sais bien que les rôdeurs de la frontière sont sur ta piste. Il suffirait que tu restes 2 jours absent pour que ton or ait disparu. Non, cela m'est bien égal, j'irai avec toi. Non, n'insiste pas, tu me fâcherais. Frontenac connaissait le caractère très impérieux de son camarade. Il n'ignorait pas que la contradiction l'irritait jusqu'à le rendre intraitable. Il ne s'obstina pas dans son idée. Pourtant, il se sentait le cœur serré en songeant que Martial courait étourdiment au-devant d'un péril mortel. « Je ferai comme tu voudras, » murmura-t-il tristement. « Mais ce m'est un vrai chagrin. Puisses-tu ne pas te repentir de ne pas avoir accepté mon aide ?» « Non, le danger n'est pas aussi grand que tu te l'imagines, » répondit Martial avec un sourire. « Laisse-moi cette petite satisfaction d'amour-propre, d'avoir triomphé tout seul de périls qui, à raisonner froidement, me paraissent plus imaginaires que réels. C'est mal à toi de me dédaigner, » balbutia Frontenac avec une sincère émotion. Les deux amis échangèrent une poignée de main. « Maintenant, » dit Martial, « Il faut que nous nous séparions. Chalitot est déjà en train de charger les mules. Mais auparavant, dis-moi ce qui te manque. Je ne te quitterai pas sans t'avoir au moins ravitaillé. Frontenac ne voulut que quelques boîtes de corned beef, une petite provision de cartouches et un sac de farine de maïs, et, sur les instances de son ami, quelques paquets de gros tabac. En revanche, il contraignit Martial à accepter une petite boîte remplie de poudre d'or, puis ils se séparèrent. Longtemps, Martial entendit le pic du chercheur d'or qui sonnait sur le dur granit dans le grand silence du désert. Petit à petit, ce bruit qui lui semblait être le dernier adieu de son ami s'affaiblit, se perdit dans la rumeur immense de la montagne et de la mer lointaine, et le jeune homme se retrouva dans toute l'horreur de la solitude aux côtés de l'impassible Chalitot. Frontenac avait lui aussi bien des fois abandonné sa rude besogne pour suivre au loin les silhouettes de la petite caravane qui allait en diminuant à mesure qu'ils s'éloignaient vers le fond de la vallée et qui ne furent bientôt plus que des points imperceptibles sur l'immensité rougeâtre de la plaine désertique. Chapitre 3. Le talisman de Chalitot. En sortant de la région montagneuse qu'il venait de traverser, Martial et son guide se trouvèrent dans une plaine aride, semée de cailloux, et dont le sol était hérissé de plantes grasses aux épines acérées. Pas un arbre, ils ne rencontraient d'autres êtres vivants que le petit lézard, et de temps en temps un serpent rouge qui regagnait son trou effrayé par les pas des mules. Parfois aussi, un de ces grands vautours blancs qui habitent les sommets de la cordillère passait, les ailes étendues à des hauteurs inaccessibles. Au fond de l'horizon, sur le ciel d'un bleu aveuglant, d'un bleu d'encre bleue ou d'indigo foncé, une chaîne de montagnes s'estompait dans le lointain d'une couleur plus claire. Il faisait plus de 45 degrés à l'ombre, et les mules, poils mouillés de sueur, n'avançaient qu'avec lenteur. Cette plaine désolée ne semblait devoir jamais prendre fin. Après plusieurs heures de marche, Martial avait la sensation d'avoir piétiné sur place dans ce morne paysage toujours pareil à lui-même. Vers la fin de la journée, Chalitot abattit d'un coup de carabine un lézard noir de près d'un mètre de long, auquel sa crête dorsale fantastiquement découpée donnait l'apparence d'un fabuleux dragon. « Mais pourquoi, demanda Martial, as-tu tué cette bête inoffensive ?»« C'est un guachichevé que les Espagnols appellent un iguane. Nous le mangerons à notre souper. » Oh, tu le mangeras tout seul si tu veux, s'écria le jeune homme avec une grimace de dégoût. Mais vous avez tort de mépriser cet animal. Sa chair est très recherchée des amateurs. Les Indiens le conservent quelquefois plusieurs semaines sans lui donner à manger et la bouche cousue pour l'empêcher de maigrir. Enfin, vers le soir, on atteignit un creux abrité où poussaient quelques bruyères et quelques-uns de ces faux poivriers qui portent des grappes de fruits d'une belle couleur rouge. On décida de passer la nuit dans cet endroit. Martial était brisé de fatigue. Ce fut avec une véritable satisfaction qu'il se reposa sur la terre, couverte d'un gazon pelé, parsemé de ces soucis jaunes que les Indiens appellent la fleur des morts. Pendant ce temps, Chalitot allumait un feu de broussailles et faisait rôtir son iguane dont il avait farci l'intérieur avec les feuilles aromatiques du lavensara. Malgré ses préjugés européens, Martial sentit ses narines agréablement chatouillées par le fumet de cet étrange rôti, et sur les instances de son guide, il consentit à en goûter et fut obligé de reconnaître que la chair blanche du lézard était d'un goût délicieux qui rappelait à la fois la sole et les cuisses de grenouille. Après le repas, Martial tomba presque aussitôt dans un sommeil accablant qui se prolongea sans interruption jusqu'au matin. Quand il ouvrit les yeux, Chalito avait déjà scellé les mules et préparé le café. « Je vous ai réveillé de bonne heure, expliqua-t-il, car il est préférable de marcher avant que le soleil soit encore sur l'horizon. Vous pourrez vous reposer pendant la grosse chaleur du jour. Sommes-nous loin de la vallée du désespoir ? Demanda le jeune homme. Vous avez encore affaire à peu près une journée et demie de marche. Mais c'est aujourd'hui que je vous quitterai. Alors tu es bien décidé à ne pas m'accompagner. Cela n'a-t-il pas été convenu entre nous ? Répondit gravement l'Indien. Je n'entrerai pas dans la vallée du désespoir quand vous me donneriez une de ces mules chargées de poudre d'or. Il accompagna ces paroles d'un grand signe de croix, car il était persuadé que le seul fait de prononcer le nom de la redoutable vallée lui porterait malheur. « Tu es donc bien sûr que je ne reviendrai pas ?» demanda Martial, impressionné malgré lui par la frayeur que montrait Chalito, ordinairement si brave. Le métis garda le silence en hochant tristement la tête. « Mais enfin, reprit Martial avec impatience, que penses-tu que deviennent ceux qui ont ainsi disparu ?»«
Je ne sais pas, mais de tout temps, cet endroit a eu une sinistre réputation. Les Indiens eux-mêmes l'ont toujours évité, et il arrivait très souvent malheur à ceux qui y campaient, ne fût-ce qu'une seule nuit. »«
C'est absurde !» Mais malgré les questions les plus pressantes, Martial ne put tirer de Chalito aucun renseignement précis. On se remit en marche. Les mules qui avaient brouté l'herbe et les buissons couverts d'une rosée abondante marchaient plus allègrement. L'aspect du paysage s'était modifié. Le terrain, s'élevant par une pente insensible, aboutissait à un plateau couvert d'une véritable forêt de cactus de toutes les formes et de toutes les couleurs, dont les épines acérées rendaient en quelques endroits la marche presque impossible. À côté des figuiers de Barbarie, chargés de centaines de petits fruits violets, s'élevait le gigantesque cierge paré de fleurelles jaunes, des cactus organos dont les tubes verts bronze aux épines aiguës s'érigent parallèlement les uns aux autres comme les tuyaux d'un orgue. Certaines espèces rampantes entortillaient leurs innombrables tiges et faisaient songer aux nids de vipères. Enfin, c'était le visnaga, étrange végétal d'un aspect véritablement fantastique. Qu'on se figure une gigantesque citrouille de 4 à 5 mètres de circonférence, armée de milliers d'épines roses et transparentes. À plusieurs reprises, Chalito dut mettre pied à terre et se frayer un passage à coups de machette. On marcha ainsi pendant presque toute la matinée, au milieu de ces végétations hostiles qui eussent fait la joie d'un horticulteur d'Europe. Chalito arrêtait de temps en temps sa monture et consultait le vent et le soleil, en homme qui, depuis son enfance, connaît l'art de s'orienter dans le désert. Enfin, il obliqua brusquement vers la droite, et au bout de 10 minutes, atteignit un sentier qui aboutissait au fond d'une ravine. Martial le suivit. Les cactus avaient disparu, et dans le creux du sentier poussaient les mimosas, et des fougères géantes. « Où me conduis-tu ? » demanda Martial.
« Je connais l'endroit. Il y a de l'eau et des arbres, et vous y serez très bien pour déjeuner et pour faire la sieste. »
Et il ajouta, en poussant un soupir,
« C'est là que nous devons nous séparer. »
Ils avaient atteint le fond du ravin où un mince filet d'eau tombé du rocher allait se perdre un peu plus loin dans les sables. Mais dans ce creux abrité du vent, ce peu d'humidité avait suffi à faire pousser toute une végétation luxuriante. Des saules, de beaux lauriers, des lataniers, variétés de palmiers, dont les feuilles gracieusement épanouies en forme d'éventail servent à tresser des corbeilles et des chapeaux, enfin un avocatier, chargé de fruits d'un vert tendre, de la forme d'une grosse poire, et dont la saveur un peu fade est appréciée des Indiens. Les mules qui avaient flairé le voisinage de l'eau poussaient de joyeux hennissements. Elles se jetèrent avidement sur l'herbe drue qui tapissait les bords de la petite source, sans même attendre d'être débarrassées de leur charge. Chalito, comme de coutume, alluma du feu, ouvrit une boîte de conserve, fit cuire dans la poêle quelques minces galettes de maïs, mais Martial observa qu'une profonde tristesse se peignait dans les regards de son guide. Évidemment, il en coûtait beaucoup à l'honnête Indien de se séparer de lui. Bien que presque confortable, surtout pour un repas pris en plein désert, le déjeuner fut mélancolique. À la fin, Martial offrit à Obétis un grand gobelet rempli d'eau-de-vie de canne. Chalito, qui, comme tous ceux de sa race, avait pour l'alcool une invincible passion, dégusta le breuvage en connaisseur. Il laissa même, sans faire la moindre résistance, Martial remplir une seconde fois son gobelet. « Le moment est venu de nous séparer, » dit-il enfin. « Mais il est bien entendu, » répondit le jeune homme, « que dans 8 jours tu viendras m'attendre à cette même place pour que nous retournions ensemble à Mexico. » Le métis fit un signe de tête affirmatif, mais sa physionomie exprimait si clairement la conviction qu'il avait de ne plus jamais revoir Martial, que celui-ci en fut tout à la fois touché et irrité. « Mais tu es un sobant avec ta mine d'enterrement, » s'écria-t-il, « tu me prends sur les nerfs. Eh bien, sois persuadé d'une chose, c'est que tu me retrouveras sain et sauf. » Apprends que dans la Grande Guerre, je suis revenu d'endroits 1000 fois plus dangereux à traverser que la vallée du désespoir.
Je le souhaite de tout mon cœur, répondit gravement Chalito, car vous avez été très bon pour moi. Mais malheureusement, pourquoi n'avez-vous pas voulu écouter mes conseils?
Le jeune homme haussa les épaules. « C'est bon, dit-il, ne parlons plus de cela. Il fait encore trop chaud pour se mettre en route. Nous allons faire une petite sieste, après quoi nous partirons. » Martial s'étendit à l'ombre d'un grand laurier et ne tarda pas à s'endormir. Quand il se réveilla, les deux mules étaient déjà sellées et chargées par les soins du métis, et tous les préparatifs de départ étaient terminés. Ainsi que nous l'avons vu, Martial était pourvu d'une carte de la région, il possédait aussi une boussole de poche, et ainsi pourvu, il ne lui était pas possible de s'égarer. Cependant, Chalito lui fit remarquer que les cartes de cette contrée presque inexplorée fourmillaient d'erreurs et d'inexactitudes, et il tint à lui faire toutes sortes de recommandations, fruit de sa parfaite connaissance du pays.
Il lui enseigna la manière de reconnaître, d'après la nature des arbres, le voisinage d'une source. Il lui indiqua les fruits sauvages et les racines dont il pourrait faire sa nourriture en cas de besoin. Martial, plus ému qu'il ne voulait le paraître du dévouement que lui témoignait le brave Indien, lui remit une dizaine de piastres de plus qu'il ne lui en était dû d'après leur convention. Enfin, il lui fit cadeau d'une bouteille de son alcool, d'un couteau à plusieurs lames et d'un petit miroir, objet qui avait excité au plus haut point sa convoitise. « Il faut que je vous fasse aussi un présent, » dit Chanito, en tirant de dessous sa veste de cuir une petite figurine d'argile rouge qu'il portait suspendue au cou par une cordelette de fil d'aloès. « Tant que vous garderez ceci, » déclara-t-il avec conviction, « les mauvais esprits ne pourront rien contre vous. » « Je te remercie, » répondit Martial, très touché de l'amitié que lui témoignait son guide. « Mais si tu me donnes ton amulette, tu ne seras plus défendu contre les esprits. » Et Chanito partit avec l'adorable naïveté qui le caractérisait. « Mais ils ne sauront pas que je vous l'ai donnée. Il y a 30 ans que je la porte. Elle me vient de mon arrière-grand-père, qui était un cacique puissant. Si vous revenez sain et sauf, vous me la rendrez, car c'est une chose très précieuse. » Le pauvre métis faisait certainement un grand sacrifice en se séparant de la figurine de terre cuite. Martial essaya vainement de refuser son offre généreuse. Il lui fallut accepter. L'amulette qu'il venait de se passer autour du cou représentait un homme à tête de crocodile accroupi dans une posture bizarre et qui devait sans doute figurer une des divinités des anciens Aztèques. On remonta par le sentier jusqu'au plateau des cactus et c'est là qu'après un dernier adieu et une dernière poignée de main eut lieu la séparation. Chanito se dirigea vers le sud tandis que Martial poursuivait sa route vers le nord. Il se trouvait maintenant seul en plein désert, abandonné à ses propres ressources.